Ben, je l'ai dit tout à l'heure, on s'est promené en Chaudière-Appalaches et maintenant on va faire un petit tour du côté de Trois-Rivières pour entrer en communication avec Anne Évrard, spécialiste en orientation et mobilité en déficience visuelle au CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec. Bonjour, Madame Évrard.
Bonjour, Monsieur Breton.
J'espère qu'il fait plus beau dans votre coin qu'à Montréal parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu déprimant la météo.
Alors, je retourne vers notre fenêtre. Non, le ciel est quand même gris et on a quand même de la pluie aussi.
Donc aujourd'hui, eh bien, on est entré en communication avec vous pour vous parler des groupes L'Éclaircie qui sont offerts en fait au CIUS, qui sont en fait des groupes de soutien pour les personnes qui sont confrontées à une nouvelle qu'on ne veut pas nécessairement obtenir, mais dont la récurrence est de plus en plus fréquente avec l'avancement de la population et son vieillissement, c'est-à-dire la perte de vision. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi les principales angoisses qui vont traverser une personne qui va recevoir un diagnostic de dégénérescence maculaire ou d'autres types de maladies de l'œil?
C'est sûr que apprendre qu'on perd de la vision, c'est se dire qu'on va devoir faire une série de deuils dans la vie quotidienne. Ça va souvent aller par la perte du permis de conduire pour beaucoup de gens. Ça va être aussi surtout par rapport justement à la dégénérescence maculaire dont vous parlez. Ben, l'accès à la lecture, l'écriture, ça pose problème, mais même des petits gestes de la vie de tous les jours, tels que cuisiner, tels que faire son lavage, aller à la banque, ça va poser vraiment en effet des problèmes. Donc, c'est là où nous, les services de réadaptation, on essaie de mettre en place des propositions de stratégie, puis éventuellement enseigner des aides techniques pour leur donner quand même les moyens pour reprendre une vie, je dirais, la plus autonome, malgré la déficience visuelle.
Ouais, parce qu'effectivement, c'est une série de deuils, puis effectivement, quelque chose qui revient souvent ou qui est souvent nommé parmi les personnes qui sont atteintes d'une déficience visuelle, c'est la perte du permis de conduire. C'est un deuil important. Celui-ci est plus difficile à faire, mais quand on pense à d'autres types de deuils, comme celui de la lecture, ben, il faut comprendre qu'avoir une perte de vision, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus accès à la littérature, là.
Exactement. Et puis surtout, il faut bien entendre que lorsqu'on reçoit le diagnostic, ça ne veut pas dire qu'on va devenir aveugle. Même s'il y a le terme de dégénérescence, on a quand même une très, très grande majorité de personnes qui sont inscrites ici dans les programmes de réadaptation en déficience visuelle qui ont un résidu visuel et qu'on va sûrement essayer d'explorer pour que, ils puissent l'utiliser de manière optimum. Donc, beaucoup de gens pensent qu'ils vont devenir aveugles et ben, je dirais la chance, c'est qu'il y en a très peu en réalité qui tomberont vraiment dans la cécité totale. Mais c'est ça. Donc nous, par rapport à la lecture, ben, entre autres, au travers de ces groupes de l'éclaircie, on va déjà leur donner des petits moyens, des stratégies pour éventuellement déjà avoir un meilleur accès à la lecture. En fait, ces groupes n'est qu'une première partie, je dirais, c'est le début de l'apprentissage, de la réadaptation qu'on leur donnera par après de manière plus en individuel. Mais le principe de ces groupes, l'éclaircie, c'est vraiment de pouvoir répondre assez rapidement aux besoins des personnes en les faisant revenir une fois. En fait, on les invite deux fois sur un mois, deux groupes qui vont être partagés par le premier groupe, ce sont des demi-journées, pardon, excusez-moi, ce sont des demi-journées. Et le premier groupe, ben, c'est ça, on va présenter nos services, on va un petit peu expliquer c'est quoi le fonctionnement visuel quand on a des atteintes au niveau de la vision.
Mais est-ce que ces groupes de travail-là, est-ce qu'à la suite d'un diagnostic, quand le médecin, quand la nouvelle tombe, bien, est-ce que c'est automatique que ces gens vont s'inscrire ensuite à ces groupes de l'éclaircie ou s'il doit y avoir des démarches personnelles qui doivent être entreprises?
Exactement. Donc, en fait, ça, c'est clair. Là, j'ai peut-être sauté une étape. Vous avez raison. Le médecin ou l'optométriste va en effet relever qu'il y a un problème au niveau de l'acuité visuelle, au niveau du champ visuel, ou éventuellement les habitudes de vie peuvent être perturbées si on a un diagnostic qui peut être dégénératif. Et à ce moment-là, en fait, c'est la personne ou le proche de la personne qui va devoir faire le premier pas en se renseignant au niveau du guichet d'accès. Des services qu'on peut proposer ici au CIUS. Alors, ils doivent appeler, il y a un numéro de téléphone évidemment, ils doivent envoyer le rapport du médecin ou de l'optométriste. Et là, en fait, il y aura ce qu'on appelle un accueil psychosocial où on aura une analyse, une orientation et puis la référence dans les programmes qui va être donnée.
Parce que la pire
Ensuite,
chose à faire, j'ai l'impression, quand on reçoit une nouvelle comme ça, c'est s'isoler. Parce que c'est quand on s'isole que là, la nouvelle devient plus terrible. On passe à côté de tous les outils qui sont mis à leur disposition. Puis on passe aussi à côté de l'expérience qui peuvent être partagées par les personnes qui vivent la même chose.
exactement. Et ça, c'est vraiment le point fort de ces rencontres, l'éclaircie, c'est que il y a quand même un soulagement de dire, mais je suis pas la seule, ou c'est pas si pire que ça pour moi quand ils rencontrent d'autres personnes qui, éventuellement, ont peut-être plus de difficultés. Et ça, on ressent très, très fort à la fin de ces groupes, ce sentiment-là d'appartenance avec d'autres personnes qui ont aussi des difficultés, y compris aussi les proches, qui se sentent pas tout seuls non plus, et d'avoir tout ça sur ce diagnostic et surtout les conséquences de ce diagnostic qui est souvent la perte d'autonomie. Donc, c'est pas évident pour les proches non plus.
De partager,
Alors,
je suppose que ça permet de dédramatiser la situation, en fait. Puis ça permet de faire circuler l'information, faire circuler des trucs. Mais à la base, est-ce que les spécialistes comme les optométristes et les médecins font un assez bon travail d'éducation pour référer les personnes à ces groupes de soutien-là? Parce que s'ils ne savent pas qu'ils existent, ben c'est peine perdue.
écoutez, en fait, oui, en effet, les ophtalmologistes sont au courant qu'il existe un centre de réadaptation à déficience visuelle. Il y en a un dans chaque, enfin, qui fait partie maintenant du CIUS. Donc, de toute manière, dans chaque région, on a un CIUS et dans chaque région, il y a un centre de réadaptation. C'est vrai que même si le médecin fait référence, peut-être les patients sont déçus par le fait qu'on ne leur parle plus de la lunette ou du médicament ou de l'opération qui va leur rendre leur vision comme avant. Donc là, maintenant, c'est dire on va aller avec ce qu'on a et on va essayer de poursuivre notre vie. Donc, il y a aussi l'étape pour la personne de dire, OK, je vais devoir accepter de dire que il n'y a plus un traitement miracle là maintenant pour améliorer ma vision. Alors oui, il y a eu, je dirais que moi je vois qu'il y a vraiment une évolution dans les références. C'est vrai que petit à petit, les choses passent et les gens sont au courant, en effet, que ce soit les optométristes ou les ophtalmologistes, que ces services existent. Et on a encore eu quelques petits cas où éventuellement, ça a mis du temps avant que la personne fasse les démarches auprès de nos centres.
Puis là, ben, c'est du temps qui pourrait être investi ailleurs parce qu'il faut également faire comprendre aux gens, par exemple, qui vont perdre la vision, qui tiennent beaucoup à leur lecture, que ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas lire un bon livre encore, que ce soit par format sonore. Des fois, les gens perdent la vision, se disent, OK, ben là, je dois faire le deuil de la lecture, ça va toujours devoir être mon mari qui va me faire la lecture, mais pas nécessairement, là, parce qu'il existe quand même des livres en braille. Ben là, c'est peut-être un peu difficile d'apprendre le braille rendu à un certain âge, mais il y a des livres audio, par exemple.
Exactement. Il y a les livres audio, mais on a aussi, en fait, ça c'est nos spécialistes en réadaptation déficience visuelle qui vont évaluer s'il n'y a pas même une aide optique qui pourrait aider la personne quand même à avoir accès à soit ce qu'on appelle des lectures ponctuelles, les regarder
ouais,
un
ouais.
petit peu les revues ou
les circulaires, par exemple, pour les
les
psys.
Circulaires, exactement, ou le compte en banque ou des choses comme ça. Et puis alors, en effet, si ce sont des lectures plus longues et qui sont trop fatigantes pour la personne à utiliser une bonne loupe ou d'autres systèmes, mais c'est sûr que le moyen auditif, le moyen sonore est excellent aussi.
Ou encore les fameuses télévisionneuses, là, des fois, qui servent
et
bien.
Et alors, c'est ça, on a ces aides aussi qui existent. C'est sûr que lors de ce premier groupe de l'éclaircie, on ne va pas encore tout de suite leur donner ce matériel-là. Ce groupe de l'éclaircie, c'est vraiment, on fait un petit peu un survol des services qu'on leur propose et on leur donne déjà des conseils, des stratégies qu'ils pourraient mettre en place avec ce qu'ils ont à la maison ou éventuellement ce qu'on peut même acheter en magasin pour améliorer leur vie. Alors moi, je parle de mon domaine, je travaille dans les déplacements, l'orientation et la mobilité. C'est sûr que je vais parler éventuellement de s'acheter une bonne lampe de poche si, en sortant de la voiture au mois de novembre, quand ils reviennent du restaurant, ils ont des difficultés à retrouver leur trottoir, les marches. S'ils ont déjà une bonne lampe de poche, ils pourraient éventuellement mieux se repérer et surtout ne pas trébucher sur les obstacles.
Mais je comprends
Donc,
tout à fait. En fait, les ben, parce qu'il ne faut pas minimiser l'utilité du soutien technique, mais effectivement, le grand avantage des groupes L'Éclaircie, c'est le soutien moral que ça apporte aux personnes.
Oui, exactement. Donc, le fait de se retrouver ensemble, on a aussi un moment où il y a un témoignage d'une personne. Bon, on a ce témoignage en vidéo, là, mais c'est très parlant puisqu'elle parle beaucoup d'une personne qui est déficiente visuelle, qui est passée par nos services et qui explique un peu comment est-ce qu'elle a vécu ça. Puis c'est un très beau témoignage et en général, on a de super belles réactions après ce témoignage-là. Les gens sont plus ouverts à parler aussi ensemble. Alors, dans notre équipe d'intervenantes, on a quand même une psychologue et une travailleurs sociaux qui font partie aussi de ce groupe L'Éclaircie et qui vont reprendre avec les personnes et leurs accompagnateurs un petit peu ce processus de deuil et faire un début évidemment d'approche d'aide et de soutien pour elles.
Et pour la preuve que ça fonctionne bien, eh ben chaque personne qui était au début réticente de participer à la première séance sont tous revenus pour la deuxième séance. Je pense.
En tout cas, on en a plusieurs qui, oui, en effet, n'étaient pas certains parce qu'ils ne savaient pas très bien ce qu'ils allaient venir voir, écouter. Donc, ils venaient, ils étaient là parce que... Je peux vous dire que souvent, lors de la... Parce que donc, il y a une deuxième après-midi qui a lieu 2 semaines plus tard. On retrouvait ces personnes qui arrivaient beaucoup plus tôt que prévu, qui étaient vraiment... On a vraiment, je pourrais dire à 95% du temps, un enthousiasme de la part des personnes. On a beaucoup de reconnaissance, ce qui est très agréable pour nous aussi, d'entendre les gens qui apprécient déjà cette première étape, parce qu'auparavant, ils étaient en attente. C'était des gens, même s'ils étaient inscrits à nos services, il y avait une liste d'attente assez importante avant qu'ils reçoivent des services. Mmh. Et là, on essaie de répondre assez rapidement, déjà par ce groupe-là, et comme ça, ils ont une meilleure idée de ce qui va se passer par après aussi. Parce
C'est
qu'on
un
les
premier
reverra...
coup de pouce.
Bon. Oui, exactement. On les reverra par après en individuel pour vraiment donner les meilleurs conseils. Mais là, déjà, d'avoir ces deux après-midi, on se rend compte que ça a vraiment diminué cette anxiété que les personnes auparavant vivaient avant de recevoir leur service.
Tout à fait. Là, ben, je rappelle qu'on s'entretient avec Anne Évrard, qui, elle, est au CIUS de la Mauricie du Centre du Québec. Mais si vous nous écoutez et que vous êtes ailleurs au Québec, ben, sachez que des groupes de ce genre-là, qui sont parfois organisés par INCA, par exemple, existent un peu partout. Donc, prenez le moment de vous informer auprès des CIUS de vos communautés respectives. Merci beaucoup, Madame Évrard, d'être venue nous parler aujourd'hui.
Ben, c'était un plaisir. Je veux simplement vous dire que nous, notre groupe, on s'est basé sur quelque chose qui se passait en effet à Québec aussi. L'IRVPQ, c'est eux qui ont lancé. Donc L'Éclaircie, c'est par eux aussi qu'on a eu les modalités de travail. Et donc, en effet, je confirme ce que vous avez dit, c'est que ça existe dans d'autres régions.
Tout à fait. Bien, merci beaucoup encore une fois.
Merci beaucoup, Monsieur Breton.
Puis bonne chance à tous les gens, en fait, qui vont devoir traverser cette épreuve-là et qui peuvent heureusement compter sur un soutien du genre. On s'en va.